vous pourrez prendre la route le jour même en toute tranquillité. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Nous nous sommes entretenus avec la directrice générale du Centre d'écoute et de prévention du suicide Beaucette-Chemin. Une discussion sans tabou. Le CEPS, promouvoir la vie.
Bonjour Mélissa.
Bonjour Maxime.
Aujourd'hui, on va démystifier ensemble les mythes concernant justement le suicide. Commençons avec le premier mythe. Est-ce que c'est vrai, Mélissa, lorsqu'on dit que seul un professionnel de la santé peut aider une personne qui est suicidaire?
En fait, c'est faux parce que tout le monde peut aider par simplement écouter sans juger. Puis on a des belles ressources là, au Québec, là, comme le 1-866 appel ou le 53-53-53 pour parler à un intervenant. Puis il y a toujours la ligne du CEPS qui est ouverte 24/7 pour accueillir les gens.
Un autre mythe qu'on entend serait qu'il faudrait éviter de parler du suicide avec un proche qui va pas bien.
Mais souvent, les personnes qui pensent au suicide ne savent pas à qui en parler et comment le faire. Donc, d'ouvrir la conversation en lui demandant directement si la personne pense au suicide, ça va lui permettre d'exprimer sa souffrance, de se sentir moins seul et de parler librement.
Un autre mythe serait qu'on doit laisser une personne suicidaire demander de l'aide elle-même.
Mais une personne suicidaire n'a pas toujours le réflexe de demander de l'aide, soit par gêne ou en pensant qu'on ne peut pas l'aider. Donc, juste le fait de l'accompagner dans ses démarches, là, ça peut faire une très grande différence.
Quatrième mythe, Mélissa, est-ce que c'est vrai lorsqu'on dit que le suicide se fait souvent sans avertissement?
Ben, en fait, le suicide est rarement un geste spontané. Il y a des signes avant-coureurs là, qu'on peut détecter chez une personne en détresse, comme des messages que la personne exprime ou encore des changements dans son comportement, une perte d'intérêt pour des activités qu'il aime normalement.
Et le dernier mythe qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, est-ce que c'est vrai lorsqu'on dit qu'une amélioration soudaine est un bon signe?
Mais normalement, si une personne qui a déjà eu des pensées suicidaires là, semble tout à coup de bonne humeur, là, c'est possiblement un signe de danger. Ça se pourrait que la personne ait été chercher les outils ou ça pourrait aussi dire que la personne a fait son choix puis elle a l'impression de se sentir libérée. Là.
T'as besoin de parler? Appelle au 418-228-0001.
C'est votre chance de passer à l'électrique à la vitesse Mach-E et de profiter du grand retour de l'incitatif provincial. En ce moment, louez nos dernières Mustang Mach-E Select 2024 à traction intégrale d'une valeur de 54 200 à 565 $ par mois sur 60 mois sans acompte. Une location à 0% pour seulement 131 $ par semaine? Depuis le temps que vous attendiez une offre comme celle-là. Passez vite chez votre détaillant Ford du Québec. Certaines conditions s'appliquent, incluent l'incitatif provincial.
900 000 $ C'est la somme que les partis politiques canadiens ont donnée à Meta juste avant les élections. Une entreprise américaine qui refuse de payer sa juste part ici. Une entreprise qui a banni nos médias de ses plateformes. Nos politiciens ne devraient-ils pas soutenir notre information, nos médias, notre démocratie? Un message de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, de l'Alliance des radios communautaires du Canada et de l'Association des radios régionales francophones.
C'est bientôt le temps du biscuit sourire chez Tim. Faites grandir votre communauté, bouchée par bouchée. Parce que 100% du produit de la vente est versé à des organismes locaux et des groupes communautaires. Du 28 avril au 4 mai, rendez-vous chez Tim pour acheter un biscuit sourire.
Mix 99.7, le show du matin.
Hey, le 35 secondes écart, j'aimerais juste qu'on rajoute un complément d'information. C'est parlé qu'il y avait un manque criant de familles d'accueil.
En Chaudière-Appalaches.
En Chaudière-Appalaches, exactement, pour du 0 à 17 ans.
Oui.
Donc, vraiment, dans plusieurs tranches d'âge et même des tranches d'âge où le bébé est très, très jeune encore.
Naissant, puis il y a une problématique aussi pour des enfants avec des capacités physiques diminuées ou des capacités intellectuelles diminuées également. Donc, des enfants autistes, par exemple, il y a une grosse demande. C'est sûr que c'est un contrat, s'embarquer là-dedans, on ne se le cachera pas, mais c'est essentiel. On ne peut pas laisser ces enfants-là abandonnés parce que on a peur de foncer comme pour devenir famille d'accueil. Là.
Si jamais, là, puis je sais que je parle un petit peu à travers mon chapeau, je veux dire, je ne suis pas famille d'accueil, puis je suis pas en mode, j'ai pas d'enfant, là, mais j'ai commencé à écouter sur Netflix. C'est une série là, qui est super bonne.
Adolescent?
Non, c'est pas adolescent, c'est d'amour et d'autisme.
Okay.
C'est carrément une espèce d'amour et dans le pré, un peu, là, parce que c'est une thématique un peu différente. Ou est-ce que on rencontre des personnes qui sont autistes, qui sont dans leur vingtaine, ou est-ce que puis on les suit à travers la quête de l'amour? T'sais, pour qui c'est pas
bon,
toujours
hein?
Évident. Il y en a plusieurs pour qui ça peut être difficile. On voit aussi à quel point le spectre de l'autisme. Tu sais, je veux dire, c'est de 1 à 5 que ça peut aller. Certaines personnes vont avoir des facilités qu'une autre personne autiste qui est devant elle va avoir une facilité à faire exactement. Ça change totalement. Puis pour de vrai, là, si vous vous dites un peu peut-être, hey, mais ça serait quoi de vivre avec quelqu'un d'autiste? Bon, c'est sûr qu'on voit beaucoup le positif, mais sont bons pour montrer les moments les plus difficiles aussi. Et pour de vrai, moi, cette série-là, présentement, qu'on est en train d'écouter, là, est en train de me faire tomber en amour un petit peu, ben, avec la vulnérabilité, ben, avec tout ce que peuvent apporter les personnes autistes, autant jeunes qu'à leur âge adulte encore et toujours.
Je connais quelques personnes qui travaillent dans le milieu, tu sais, notamment Manu Rodrigue, là, ouais, qui est impliqué avec l'AIS, là, puis tous ceux qui y travaillent, qui les côtoient, là, ces catégories de personnes, ils tombent en amour avec eux, là, littéralement, pas au sens littéraire, mm-hmm, là, mais au sens abstrait, là. Et ils changeraient pas de carrière pour rien au monde.
Là. Ah, puis... On le voit tellement à travers les épisodes, là, les intentions de comment est-ce qu'ils procèdent, là, c'est que de la bonté.
Ouais.
C'est oui, des fois on va avoir un problème social, du moins peut-être pour s'exprimer, ou on sera pas à l'aise comme.
Ah, puis il y a des défis tous les jours.
Exactement. Ouais. Mais ça reste de la bonté. Donc non, d'amour, histoire d'amour et d'autisme sur Netflix. C'est sorti en 2023. On est à la troisième saison, okay, présentement, pour les intéressés. Petit complément d'information. Moi, on binge-watch ça le soir, puis j'ai 50 000 fois plus de plaisir. Et on dirait que je me sens plus rempli par la suite que du Occupation Double.
Ouais. Ça va un petit peu plus loin,
ouais,
mettons.
Un petit peu plus loin, je te dis.
Pour ce qui est, si on revient aux familles d'accueil, là, parce que Chaudière-Appalaches a un manque criant de familles d'accueil disponibles pour accueillir les clientèles visées. J'ai fait une petite recherche là, sur le site Internet du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que ça prend pour devenir famille d'accueil? D'abord, tu n'as pas besoin d'avoir étudié ta question là, tantôt. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être DS, docteur.
Ou juste enseignement, tu sais, avoir une base de...
C'est ouvert à n'importe qui.
Okay.
T'as quelques conditions. D'abord, là, la première, la plus importante, pour devenir famille d'accueil, tu dois être majeur.
Alors,
non, mais
plaît,
parce qu'un ouais, couple de 17 ans qui sera ensemble en appartement ne pourrait pas devenir famille d'accueil. Il faut que tu sois majeur. Tu dois être résident canadien. Bon, ça va pour la plupart d'entre nous. Faut pas avoir perdu ton titre de famille d'accueil au cours des trois dernières années. Exemple, tu l'étais, puis ton permis a été suspendu parce qu'il est arrivé de quoi. Si ça fait moins de 3 ans, tu pourras pas redevenir famille d'accueil. N'avoir aucun antécédent judiciaire. Toi,
ben,
comme personne principale au dossier ou tout autre adulte dans la maison.
Vivant dans la maison.
Ouais. Puis on s'entend, là, antécédents judiciaires en lien avec les aptitudes et les conduites requises pour devenir famille d'accueil. Exemple, je sais pas, quand... J'ai pas... T'as pas payé tes contraventions.
Ouais, t'as pas fait tes impôts en 2022.
Ben encore là, tes impôts, tu dois pas avoir fait faillite. Alors, si tu fais faillite au cours des trois dernières années, tu peux pas devenir famille d'accueil. Tu dois avoir une assurance habitation. Tu dois avoir une formation à jour pour ton secourisme.
Donc, RCR?
RCR, okay. Ouais.
Tu as fait le RCR à jour?
Tu dois être à jour pour avoir ton titre d'organisme.
Bon. C'est un 8 heures pas facile, mais il se fait.
Ah, il se fait, puis ah, il est important dans toutes, oui, les sphères. Là, tu sais, ça peut servir un jour. Bon, pour ce qui est de la résidence, là, ça reste assez vague, mais c'est quand même assez sévère. Le lieu doit être situé géographiquement dans un endroit bien accessible, éclairé, sécuritaire. On doit répondre aux normes d'accessibilité et de sécurité reconnues si les jeunes hébergés sont à mobilité réduite. Donc, t'en as un qui a des difficultés à se déplacer, ben c'est sûr, ça va te prendre des rampes. Mm-hmm. Ça va te prendre une salle de bain adaptée pour une personne handicapée. C'est pas tout le monde qui a ça là, chez eux. Là.
Mais en même temps, j'imagine que tu te lances pas dans le processus. Hey, je vais aider un jeune qui est en fauteuil roulant. Si
t'es pas adapté,
exactement,
effectivement.
Là.
Tu dois avoir des aires communes propres, éclairées par la lumière naturelle, adaptées aux enfants et en nombre suffisant pour les activités quotidiennes. La chambre à coucher, ben ça doit être idéalement, là, ben, peut-être dans certains cas, mais idéalement, une chambre individuelle, donc une chambre pour chaque enfant. La chambre doit avoir une fenêtre qui donne sur l'extérieur, située au rez-de-chaussée ou à l'étage. Une chambre aménagée au sous-sol sera acceptée si les normes de sécurité sont respectées. Bon, ça doit répondre aux règlements en matière de sécurité incendie et on doit respecter les règles d'hygiène et de salubrité des aliments. Mais après ça...
Mais je comprends que c'est tout du gros bon sens. On se dit normalement, puis tu dis « Ah oui, il n'y aura pas de problème », mais c'est lorsque tu arrives, tu fais la demande que à travers toutes ces vaguetés-là un peu, ben, y a de quoi qui sort de temps en temps.
Ben, moi, j'ai beaucoup entendu parler de familles qui répondaient à presque toutes les normes, puis c'était rendu au moment de la chambre. La chambre était au sous-sol de la maison.
Oui, bien, pis... je t'ai vu hésiter aussi à sous-sol un petit peu,
ouais.
Mais tu sais, sur papier, je veux dire, entre au sous-sol ou en haut...
Ben, des fois, c'est la possibilité d'être capable de sortir rapidement de la maison s'il y a un incendie, exemple.
Ouais, mais là, mettons, là, toi, t'as déjà un enfant chez vous. Là.
Oui.
Et là, la famille d'accueil dit « Ouais, on est désolé, non, il y a une chambre en bas, fait que tu peux pas mettre le nouveau en bas. »
Mais là, tes propres enfants, oui.
Oui, exactement.
Mais c'est ça le dilemme.
Fait que là, je me dis « Bon, fait que tu prends le tien, tu le mets en bas, parce que sur papier, c'est moins sécuritaire, mais celui que tu vas prendre en famille d'accueil va être en sécurité. » Tu comprends, c'est un peu un non-sens, là, tant qu'à moi. Là.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ont abandonné le processus parce que les travaux qui nécessitaient l'adaptation pour accueillir un enfant étaient trop majeurs. Mm-hmm. Puis
c'est du monde qui font ça de bonté de cœur.
Ben voilà, à la base.
On essaie de ne pas leur mettre trop, normalement, de bâtons dans les roues tant que, justement, les vérificatifs, moi, selon moi, qui sont les plus importants, c'est sûr, c'est les antécédents judiciaires, c'est de s'assurer que c'est les bonnes personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions. Puis à partir de ce moment-là, je veux dire, si présentement, ce matin, il y a des profs au Québec tellement qu'on est mal pris, qui n'ont pas
trop de formation.
Exactement, ou du moins que ce que j'ai peut-être connu, moi, dans les années 2000, ce que j'avais l'impression qu'il y en avait des profs partout. Ben, on est où aujourd'hui, là? Ah là là!
Et puis ça en prend des familles d'accueil, là.
Oui, ça en prend. On va mettre un peu de lumière. Un jeu de mots est un peu spécial, là. James Bay, Up All Night avec The Lumineers. Voilà mon jeu de mots. Bonne journée.
Up all night. Let's talk about who.